Philosophie du vivant, Père Philippe, 9 décembre 1582, Rimont.
Nous allons continuer de réfléchir sur le point de vue du lien, de l'unité entre l'âme et le corps. Après avoir découvert cette nécessité de poser l'âme comme principe de vie, il faut comprendre que ce principe de vie est comme une forme, plus profondément comme la substance selon la forme du vivant. Que l'âme détermine le corps, le spécifie, lui donne son caractère propre de corps vivant et lui donne ceci d'une manière indivisible, cette unité substantielle qui s'établit entre l'âme et le corps. Et je crois ça très important, puisque de fait, il y a toujours ce platonisme derrière qu'il faut bien saisir, qui maintient une dualité. Je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ce platonisme peut-être qui est le plus dangereux, mais c'est plutôt le fait d'enfouir l'âme dans le corps. Mais ce sont deux positions contraires et elles sont intéressantes donc à être bien vues en parallèle dans la perspective de la phénoménologie, dans la perspective de la biologie contemporaine. Au fond, il n'y a plus que le corps. Et comme pour Platon, il n'y avait que l'âme et le corps étaient laissés de côté, dans le point de vue biologique d'aujourd'hui, dans le point de vue phénoménologique d'aujourd'hui, on ne voit plus que le point de vue du corps. Alors, il faut maintenir cette position au-delà de ces deux positions extrêmes, de comprendre comment on a induit l'âme, et c'est ce qui fait l'importance de cette induction de l'âme, ce qui fait l'importance de cette connaissance affective qu'on peut avoir de l'âme, et de bien comprendre cette unité qui existe au niveau proprement philosophique dans le vivant, une unité substantielle. Mais cette unité substantielle doit nous faire comprendre comment l'âme est source d'intelligibilité du corps. C'est ce que je vous avais souligné la dernière fois, qui est un point de vue très important quand on veut comparer le point de vue biologique et le point de vue philosophique. Vous voyez, le Saint-Père nous demande de faire une philosophie du corps. Il faut que nous répondions. Une philosophie du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, à Fribourg, pour ceux qui étaient là, on avait fait une fois un cours sur plusieurs cours sur la philosophie du corps. Et c'est au fond très difficile de bien voir, parce qu'une philosophie du corps ne peut pas se faire en dehors d'une philosophie de l'âme. Je ne peux pas avoir une philosophie du corps sans la philosophie de l'âme. Mais c'est très vrai que la philosophie du corps, c'est comme le pos de la philosophie de l'âme. C'est le comment de la philosophie de l'âme. C'est de voir comment, de fait, l'âme vit. Mon âme ne vit pas sans le corps. J'ai aucune expérience de mon âme qui vit indépendamment de mon corps. Donc mon âme ne vit pas sans mon corps. Elle vit dans mon corps. Elle s'épanouit dans mon corps. Elle s'épanouit. Elle se manifeste dans mon corps. Et elle détermine ce corps. Mais c'est très vrai que, de fait, elle donne au corps sa signification propre. De sorte que, au niveau biologique, quand je regarde uniquement les fonctions vitales d'un vivant comme l'homme, d'un vivant comme le singe, eh bien, de fait, je pourrais faire des similitudes entre ces diverses fonctions, voir leur diversité de rapidité de réaction, voir le développement différent de l'un et de l'autre, voir que certaines réagissent de telle ou telle manière ces fonctions vitales. Je pourrais même voir que certains virus peuvent attaquer d'un côté et ne peuvent très bien ne pas attaquer de l'autre, mais je ne pourrais pas saisir ce qu'il y a de spécifique dans le corps humain. Vous voyez, on voit l'aspect générique. C'est du reste toujours très important de voir qu'au fond, la science s'incline vers le point de vue générique. Ça me semble très net, vous voyez, quand on essaie de voir quel est le dénominateur commun de tous les vivants. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ça, c'est l'aspect générique. Et c'est normal, puisque, de fait, la biologie regarde avant tout le corps. Or, l'aspect générique se prend ex parte materiae. Donc, ça se prend toujours du côté du corps. C'est fatal que le point de vue biologique développe les dispositions du corps, mais ne nous donne pas le caractère spécifique du corps. C'est pour ça que la biologie ne pourra jamais nous donner aucun principe au point de vue philosophique. Elle nous donne des dispositions. Elle nous fait comprendre la santé d'un corps. Elle nous fait comprendre l'épanouissement d'un corps, ce qui est nécessaire pour que ce corps puisse s'épanouir. Quelles seront les conditions nécessaires pour que le corps puisse s'épanouir? Quelles seront les conditions, au contraire, qui empêcheront le corps de s'épanouir? Donc les maladies qui arrêteront le développement du corps, mais ne nous donnent pas le caractère propre. Donc il ne peut pas y avoir de philosophie du corps d'un point de vue purement biologique. Le point de vue philosophie du corps implique nécessairement la philosophie de l'âme. Et quand Saint-Père dit philosophie du corps, ça implique ce point de vue de la philosophie de l'âme. Puisqu'il n'y a pas d'autonomie du corps, il n'y a pas de caractère spécifique du corps sans le point de vue de l'âme. Ça, il faut bien le saisir. Bien saisir cette unité substantielle qui se fait au niveau du comment, de l'âme s'unissant au corps. Alors, nous touchons maintenant tout de suite à un problème très important. Parce que dire que l'âme est forme, dire que l'âme est acte du corps, dire que l'âme est fin du corps, tout cela va de soi dès qu'on a compris que l'âme était le principe d'intelligibilité, le principe qui actuait, et donc le principe nécessairement qui finalise. Mais nous ne le comprendrons pleinement qu'après. Il y a un très gros problème actuellement, c'est de voir comment se posent au plan philosophique les degrés de vie. Vous voyez, je crois qu'il faut bien cerner ces problèmes. Premièrement, induction de l'âme. Ce que nous avons vu. Induction de l'âme, connaissance de l'âme, connaissance affective de l'âme, c'est-à-dire de la présence de l'âme, c'est très important. Unité dans le composé, unité substantielle. Puis alors, le second très gros problème, pour une philosophie du vivant, c'est les degrés. Les degrés des opérations, des degrés de vie, c'est-à-dire des opérations vitales. Alors, premièrement, pourquoi dire cela? Des degrés de vie. Si je fais le parallélisme, il faut toujours pour nous faire le parallélisme avec la philosophie de la nature. Dans la philosophie de la nature, j'ai découvert la physis forme et je crois que la physis forme va déterminer la physis matière. Je n'ai pas besoin, au niveau de la philosophie de la nature, de parler de degrés d'opération physique. C'est très curieux. Pourquoi? Parce que la physis forme et la physis matière sont à l'origine d'un mouvement physique, j'allais dire uniforme. La nature, ce qu'on dit habituellement, la nature est déterminée à nous-mêmes. Quand je dis que la nature est déterminée à nous-mêmes, je souligne justement ce fait que entre la physis forme et la physis matière, il y a une unité substantielle, une unité physique ici, une unité physique qui se fait entre la physis forme et la physis matière. La physis forme n'existe jamais sans la physis matière. Et toutes les deux se trouvent réalisées dans un être physique, dans une réalité une, au niveau physique. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la vie, quand il s'agit de la vie, et je vous ai dit, on ne peut étudier la philosophie du vivant que pour l'homme, donc pourquoi, quand il s'agit de l'homme, je dois nécessairement parler de divers degrés de vie. Je crois que c'est un premier problème, vous voyez, toujours la même chose, hein, au plan philosophique. Puisque certains philosophes en ont parlé, topique historique, hein, plus important le topique historique. La topique historique, je vois que les degrés de vie ont été parlés par Aristote. Et les degrés de vie d'Aristote ont été parlés par les pythagoriciens. Au niveau moral, les pythagoriciens, Aristote au niveau de la vie. Mais c'est une chose qui existe, j'allais dire, c'est une chose classique en philosophie grecque, les degrés de vie, depuis les pythagoriciens jusqu'à Aristote. Et on les retrouve aussi un peu dans Platon, pas tout à fait, puisque, au fond, pour Platon, la vie n'est plénière que la vie de l'âme. Il n'y a pas la vie du corps. Hein. Donc la vie du corps, il la laisse un peu tomber. Quoique, on sait très bien que ce n'est pas tout à fait juste, puisque, de fait, Platon essaie de récupérer, le vieux Platon essaie de récupérer tout le point de vue des sensations, n'est-ce pas ? Il essaie de les récupérer, de les réintroduire. Mais c'est jamais très poussé. Donc le problème des degrés de vie, c'est pythagoricien et aristotélicien. Alors, je dois me poser la question, étant donné que Aristote se pose des degrés de vie, comment Aristote les pose, est-ce que je dois encore les poser de la même manière? Toujours au point de vue philosophique, hein, puisque je n'ai pas le droit de répéter Aristote en me disant « Aristote est génial, je le répète ». Non, il faut essayer de comprendre pourquoi Aristote dit cela. Bon, comment se posent les degrés de vie chez Aristote dans le De Anima? Aristote pose les degrés de vie à cause de la diversité des opérations vitales. C'est à partir de la complexité des opérations vitales et de leur unité qu'il a posé et qu'il a découvert le point de vue de l'âme, comme principe selon la forme de ce qui est. Une fois que j'ai posé ce principe et que je vois qu'entre le corps et l'âme, il y a une unité substantielle, cette unité substantielle n'explique plus la grande diversité des opérations vitales. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. On a constaté, je reprends pour que vous voyez bien, on a constaté, et c'est facile à voir, on a constaté une très grande diversité de nos opérations vitales. Depuis le fait de dormir, en passant par le fait du petit déjeuner, puis le fait de penser, n'est-ce pas, et le fait d'aimer. Donc il y a une très grande diversité de nos opérations vitales. Nous dormons, nous nous éveillons, nous mangeons, nous prions, nous pensons et nous aimons. Alors cette diversité, tout en étant celle d'un vivant, de moi, cette diversité, à cause de son unité, m'a exigé d'opposer une âme comme principe, ou plus exactement, obligé de poser un principe de vie qu'on a appelé l'âme. Cette unité me permet de comprendre cette unité substantielle qui existe entre l'âme et le corps. C'est très bien d'être unité substantielle, c'est parfait, il faut la mettre. Hein. Mais cette unité substantielle est tellement radicale qu'elle n'explique plus la complexité. Donc, nouveau problème de l'unité de la complexité. Vous voyez, on l'inverse. C'est ça qui est très intéressant. Dans le premier problème de l'induction, on a insisté sur la complexité et l'unité, et on a insisté sur l'unité dans la complexité. Ici, de nouveau, je reviens sur la complexité, parce que l'unité n'épuise pas la complexité. Donc, je suis obligé de revenir, vous voyez. Tandis que lorsqu'il s'agit du monde physique, j'en ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que le mouvement physique est beaucoup moins complexe que le mouvement du vivant. Ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'affirmer. Le vivant est infiniment plus complexe. Il y a une complexité dans le vivant qui est énorme. C'est toute la grande thèse de Teilhard, hein, sur la complexité du vivant qui montre le point de vue de l'évolution et l'évolution de la matière. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est un fait que tout le monde accepte. La complexité du monde biologique est infiniment plus grande que celle du monde physique. Reste un des problèmes qu'ils font pour les réductionnistes. Parce que comment ramener la complexité du vivant à la complexité du monde physique? Même si le monde physique est complexe, il est quand même relativement simple comparativement au problème de la complexité biologique. Vous voyez? Ça, c'est un problème très, très important, de voir que cette complexité, donc, demeure et exige elle-même de répondre à cette complexité. Cette complexité, je vais donc étudier cette complexité des opérations vitales. Et à partir de cette complexité des opérations vitales, je vais voir que cette complexité peut se ramener à 3 degrés. Et ces trois degrés vont me permettre de comprendre que si l'âme est principe radical de vie, elle n'est pas principe propre de ces diverses opérations. Il faut donc introduire entre les opérations vitales et l'âme, principe radical, un principe intermédiaire, qui sera la dynamisme, qui sera la puissance. Vous voyez le raisonnement, hein? On analyse, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Si on n'analysait pas, on n'aurait pas besoin de faire ça. On aurait besoin simplement de regarder la diversité des opérations. Mais on analyse. On analyse pour toujours essayer de répondre à la question. Au fond, hein, l'induction de l'âme est une induction qui va demeurer jusque dans les degrés de vie. L'âme que j'induis est une âme qui, de fait, a bien une unité substantielle, mais c'est une âme qui ne peut pas s'expliquer uniquement dans son unité substantielle. C'est une âme qui a besoin d'être affirmée comme source de principes seconds, qui ne sont pas les principes radicaux, ou de principes propres des diverses opérations. Oui, c'est ça que je crois qu'il faut comprendre dans le dianima d'Aristote. Hein. Ça me semble très net dans le dianima d'Aristote. Aristote va vite, du reste, il n'insiste pas trop là-dessus. Mais c'est comme, je crois que nous devons insister beaucoup plus. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour nous, d'une certaine manière. Alors, il faut donc reprendre la question maintenant. On a d'abord montré comment Aristote posait la question. Maintenant, essayons de comprendre, nous, philosophiquement, en nous aidant du reste de ce que dit Aristote, mais en essayant de reposer le problème pour nous-mêmes. Donc nous avons posé l'âme à partir de l'unité. Et nous avons montré comment l'âme était principe substantiel de la réalité, principe substantiel de vie. Ceci n'explique pas la complexité si grande des opérations vitales. Alors regardons cette complexité. Cette complexité fait que certaines opérations, je prends ici les opérations les plus radicales qui sont en nous, les opérations de notre vie végétative. Je ne devrais pas dire ça, c'est déjà une espèce... Mais ça se dit couramment, nos opérations de vie végétative. Alors, prenez-les tout simplement comme une donnée commune. D'une donnée commune, je parlerai de nos opérations de vie végétative. De notre vie biologique, si vous aimez mieux, disons notre vie biologique. Ce qu'on peut dire au point de vue de notre vie biologique. Puis je parlerai de nos opérations qui impliquent nos sensations, les distinctions communes, puis je parlerai de nos opérations qui sont d'ordre beaucoup plus spirituel. Dès que, en gros, hein, si je ne précise pas encore, je suis dans une topique descriptive. Oui, je décris, parmi toute la complexité de mes opérations, je peux dire qu'il y a certaines opérations qui sont d'ordre de biologique. D'autres opérations sont d'ordre de la connaissance sensible, et d'autres opérations sont d'ordre tout à fait différent, que j'appelle spirituel, parce que c'est difficile de les appeler autrement. C'est difficile, parce que si je dis intellectuel, j'évacue le point de vue affectif. Et il faut bien donc dire spirituel. Il y a des opérations en moi qui ne peuvent pas s'expliquer par le point de vue purement végétatif. Alors, regardons ces opérations pour bien comprendre leur irréductibilité. Parce que je crois que c'est la première chose qu'on doit faire ici. Mais je reste dans un aspect descriptif. Autrement dit, je développe tout un aspect descriptif qu'Aristote n'a pas tellement développé, mais que nous devons faire aujourd'hui. Et nous pouvons le faire, parce qu'alors là, le point de vue de la biologie nous servirait beaucoup. Vous voyez, le point de vue biologique nous donne une description, ce qu'Aristote a relégué du côté des parties des animaux. D'accord ? Alors les parties des animaux, c'est très intéressant, pour un biologiste, c'est très intéressant de regarder ça, parce que c'est archaïque, c'est une science archaïque. Mais une science archaïque, comprenons bien, science archaïque du côté de la cause matérielle. Mais une science très... philosophie très intéressante parce qu'elle nous fait comprendre la manière dont le philosophe analyse la cause matérielle. Pour celui qui s'intéresse à une analyse de la cause matérielle, il faut lire le traité d'Aristote des parties des animaux. C'est très intéressant. Ça peut se lire comme un roman le soir. Tu vois, c'est facile, ça ne demande pas beaucoup d'efforts au point de vue intellectuel. C'est assez intéressant. C'est là où Aristote parle de la station droite de l'homme. Pourquoi l'homme parmi les animaux est-il debout? Et pourquoi ne marche-t-il pas à quatre pattes? C'est quand même intéressant de voir les raisons que donne Aristote. Tu vois. Et il le dit, c'est pour le cerveau. C'est pour que le cerveau ne soit pas trop chaud. Et là, qu'il garde un peu de fraîcheur et qu'il puisse alors par le fait de faire. Et qu'il y ait du vent, qu'on ait, parce qu'il voulait toujours la tête pour par terre. C'est vrai, cette expérience, rester du bordel par terre, vous verrez bien. Alors vous arriverez beaucoup de peine à penser à ce moment-là. Vous aurez un mal de tête effrayant, n'allez pas jusque-là. En effet, j'ai voulu reprendre l'expérience d'Aristote pour voir si elle était vraie. Enfin, et vous verrez qu'en effet, c'est vrai. Il y a quand même une petite expérience là. Aristote est à base toujours d'expérience, hein, toujours. Il n'y a pas la recherche scientifique du microscope électronique qui est là. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est toujours au niveau des sensibles propres. Et alors, au niveau des sensibles propres, il aboutit à une certaine analyse dans la cause matérielle. Bien, en effet, je peux constater que certaines opérations sont liées à la cause matérielle. La cause matérielle ici, c'est le point de vue du corps. Sont des opérations qui sont liées au corps, qui sont dans la complexité du corps humain. Alors, c'est toute la complexité du corps humain vue du côté de la cause matérielle qui nous fait comprendre ces opérations végétatives, ces opérations biologiques. Le besoin de sommeil, c'est quand même quelque chose de très curieux. Le besoin de sommeil. Pouvons-nous arriver à nous passer complètement du sommeil? Ça serait intéressant. Au point de vue biologique, de savoir si on peut se passer complètement de sommeil. Si au contraire, on sait que certains êtres se passent complètement de sommeil. Et alors quand on voit ça, on dit « Ah, c'est charismatique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas les lois normales de la vie biologique. La vie biologique demande un certain rythme qui fait qu'il y a un repos. Nous le trouvons déjà dans la vie des arbres, parce qu'il faut toujours regarder les arbres quand on parle de la vie végétative, et on voit très bien qu'il y a l'hiver. Il y a un rythme qui n'est pas le même que le nôtre, c'est bien évident, c'est un rythme différent, mais il y a un repos. La vie propre, la vie biologique implique un repos. Alors que le monde physique n'implique pas de repos. Là, nous retrouvons une donnée très importante que la biologie reconnaît aujourd'hui. Le vivant a un rythme, et il y a un rythme de repos. Il y a un rythme. Et ça, c'est très vrai qu'en dehors de la vie, il n'y a pas de repos. Au niveau purement physique, il n'y a pas de repos. Vous êtes dans un mouvement pur. Un mouvement, donc, vous voyez, l'aspect de l'uniformité du mouvement physique est très fort. Tandis qu'au contraire, vous constatez que dans le point de vue de la vie biologique, il y a un rythme de vie. Qui dit rythme de vie implique repos. Il y a donc un repos du côté de la vie végétative, du côté de la vie biologique. Il y a un repos qui est nécessaire au rythme du vivant, au niveau de son corps vivant. Donc, il y a le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil, ce qu'on appelle l'hiver. L'avantage de nous, c'est que nous avons un hiver tous les jours à notre portée. Et quand on commence à s'endormir le soir, c'est bon, tourne le soir, les paupières tombent avec les feuilles. Alors, ça fait le point de vue qu'on commence à être fatigué. Et puis, on se réveille. Printemps magnifique, extraordinaire. Et puis, plein midi, merveilleusement éveillé. Il y a une courbe vitale, c'est très curieux, tu vois, on le sent très bien. Et quand on est fatigué, on s'en aperçoit très bien. On s'aperçoit, c'est que vous prenez les vieillards, ils ont une courbe vitale qui est extrêmement ponctuée, qui est beaucoup. Ils savent très bien que la journée, ils sont pendant un certain temps éveillés, puis après, ça commence à s'endormir. Il faut mieux pas les voir quand ils commencent à s'endormir. Alors, il y a la complexité de la vie végétative. Le sommeil, l'éveil, Ça fait partie quand même d'opérations qui sont très particulières, celles-là, et qui sont fondamentales. Puis la nourriture, la nutrition, la respiration. Ah, tout un traité de la respiration. Ça aussi serait intéressant, la respiration. Est-ce que la respiration, jusqu'où la respiration conditionne-t-elle notre vie? Jusqu'où la respiration conditionne-t-elle notre vie? J'ai décrit, hein. Nous les reverrons après, hein. Ici simplement description pour voir qu'il y a des zones, c'est ça la première chose qu'il faut constater, au niveau des opérations, il y a des zones irréductibles, les unes par rapport aux autres, si je suis honnête, si j'essaie de comprendre, il y a des zones irréductibles, il y a toute une série d'opérations donc, alors je prends exprès le sommeil, l'éveil, la nutrition, la respiration, la croissance d'un être. Et par le fait même aussi, la décroissance. Les cheveux qui tombent. Ça commence, hein. Les cheveux qui tombent, c'est quand même le signe de la décroissance. N'est-ce pas ? Qui montre qu'il y a une courbe. Courbe végétative, la mort. La mort est-elle au niveau végétatif ou à un autre niveau ? C'est au niveau végétatif. La naissance. C'est au niveau végétatif. Toute la vie avant la naissance, qui est une vie purement végétative, hein, du moins. Premièrement végétative, fondamentalement végétative. Et on voit bien que l'enfant au début, hein, c'est aussi très végétatif. Son rythme de vie est assez végétatif. Il faut l'éveiller à autre chose. Ah, l'éveil à autre chose, la sensation qui apparaît. La sensation ne s'explique plus par la vie végétative. Et ça, on le sait très bien. Tout d'un coup, il y a une espèce de présence. Il y a une espèce d'attention. Prenez-le génétiquement, que je vous parlais l'autre jour du sourire. Enfin, le sourire ne peut plus n'est pas de l'ordre purement biologique. C'est autre chose, hein, que le renvoi de la vie de la nutrition. Ce n'est pas tout à fait du même ordre. N'est-ce pas ? Alors, on voit bien, c'est autre chose. Tandis qu'au contraire, la sensation apparaît comme quelque chose d'irréductible par rapport à la vie purement biologique. Je n'explique pas encore, je dis simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouverture vers un autre. Tandis que la vie biologique, elle est terriblement égoïste. Je ramène tout à moi quand je mange, hein. Et je le fais d'une façon très propre. Je ramène tout à moi, je prends pour moi. Si je suis mon instinct, il y a des choses que j'aime et des choses que je rejette. Vous avez la petite brebis, elle fait ça. Il y a ça. Et quand on est fatigué, prends ce qui te plaît, parce que tu es fatigué. Et un vieillard, on dit, mais oui, allez, prends ce que tu plais, il ne faut pas trop imposer. Quand on éduque du côté de la nourriture en disant, il faut prendre de tout, mais à des moments, quand on est malade, alors on fait toutes les concessions possibles. L'instinct reprend sa force. La sensation, on s'ouvre à l'autre. C'est très curieux, la sensation. On s'ouvre à l'autre. Le milieu est tout autre. Alors ça nous fait comprendre quelque chose d'irréductible. Il y a dans la sensation, dans les diverses sensations, il y a quelque chose de nouveau qui ne s'explique plus par le point de vue de la pure vie biologique. Alors les liens sont très forts, c'est bien évident, il y a des interactions. Mais ici, ce que j'essaie, c'est de comprendre quelque chose d'irréductible. Alors quel est ce caractère réductible entre les deux ? D'un côté, je dis, c'est l'assimilation qui fait que le vivant de vie végétative ramène tout à lui. Je crois que c'est ce qui caractérise cette vie biologique. Il ramène tout à lui. Il y a un égoïsme substantiel de la vie végétative qui est remarquable, n'est-ce pas ? On a besoin, venez du milieu vital, c'est absolument nécessaire. Le milieu vital à ce niveau-là fait que tout est ramené à nous. Dès qu'il y a sensation, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. Et on le respecte. On n'a pas du tout besoin de l'autre comme dans l'aliment, où l'autre est ramené à nous. Tandis que dans la sensation, il y a quelque chose de plus, il y a un dépassement à l'égard de l'individu. C'est le premier dépassement, c'est dans la sensation. Et je respecte l'autre. Il y a un respect vital de l'autre au niveau de la sensation. C'est du reste très curieux, on sent très très fort ça chez les animaux, n'est-ce pas ? On voit que la vie végétative dépasse. Un hippopotame abîme tout le contexte uniquement pour manger. Une espèce de brute. Tu abîmes tout uniquement pour manger. N'est-ce pas ? Et quand on a très faim, on abîme tout uniquement pour manger. Tandis que s'il y a un tout petit peu d'éveil vers la sensation, on respectera. Vous voyez, c'est curieux. Un monde qui ne respecte plus le milieu se conduit au niveau de la vie biologique. Oui, c'est curieux. Un monde qui ne respecte plus le milieu se conduit au niveau de la vie biologique. Primum vivere. Tandis qu'au contraire, dès que la sensation commence à s'éveiller, alors c'est l'autre. Il y a un éveil de l'autre. L'autre est respecté pour lui-même. Il nous apporte quelque chose, mais on le respecte. On ne le détruit pas. Dans le monde de la vie biologique, on détruit l'autre pour le manger. Et quelquefois, on le détruit, on s'aperçoit qu'il n'est pas mangeable. Mais on l'a quand même détruit. C'est l'instinct premier, voir s'il est assimilable ou pas. Tandis que dans la vie sensible, dans la sensation, on respecte l'autre. Et la sensation va assez loin, puisque la sensation va impliquer le point de vue de l'imaginaire. Et dans l'imaginaire, je le porte en moi. Je le porte en moi, mais je le porte comme un autre monde. Au fond, je découvre là tout un domaine d'intentionnalité. C'est tout un domaine d'intentionnalité que je découvre là. Et ce domaine de l'intentionnalité, je le découvre comme distinct de la vie biologique. La sensation, alors à côté de la sensation, je pourrais parler aussi de mon expérience des passions. Est-ce que les passions sont distinctes des sensations ? À ce niveau-là, est-ce qu'il faudra mettre un autre niveau ? Non. Parce que ça restera à un niveau sensible de dépassement de moi-même, mais uniquement par rapport aux données immédiates. Je reste dans le domaine d'une intentionnalité immédiate. Troisième domaine, le domaine spirituel, la pensée. Le cogito, là on peut le dire, il y a le cogito. Le cogito, je pense. Quand je pense, je suis en dehors du point de vue de la sensation et je suis de plus en plus autonome. Autrement dit, le degré d'autonomie va grandir. L'autonomie biologique est très faible. Je suis dépendant directement de la nourriture qui m'est donnée. L'autonomie de la sensation est beaucoup plus grande. Et l'autonomie de la pensée, alors, va beaucoup plus loin. Donc, première manière de regarder ces trois aspects et de comprendre leur irréductibilité. Dans la complexité de ces opérations, je peux voir que, de fait, il y a une autonomie, une autonomie toujours plus grande. Deuxièmement, il y a cet autre aspect que je soulignais et que je crois très important, l'égocentrisme. L'ouverture vers l'autre et la pensée, l'ouverture beaucoup plus grande encore. La possibilité d'un dépassement individuel avec la vie spirituelle dans un amour qui apparaît où je suis capable d'aimer l'autre avec désintéressement, avec fidélité. Donc il y a un dépassement qui est toujours plus grand. Vous voyez, l'autonomie est plus grande et le dépassement est plus grand. C'est très curieux. Donc le double mouvement, qui à première vue semblerait inverse, parce que si je suis plus autonome, je ramène davantage à moi. Non, je suis plus autonome et en même temps je suis capable de me dépasser. Ce qui me permet de comprendre qu'il y a là du plus et du moins dans la vie et que les deux caractères les plus fonciers de la vie, c'est d'une part l'autonomie et d'autre part le dépassement. Alors l'autonomie implique une organisation toujours plus grande et plus complexe, c'est bien évident. L'autonomie de la vie biologique, qui est moindre que celui de la sensation, implique quelque chose qui est évidemment déjà très complexe comparativement au monde physique, mais moins complexe que le domaine de la sensation et de la pensée. Alors, l'autonomie va impliquer une complexité et une organisation toujours plus grande et une possibilité de dépassement. Je crois que ce sont les deux caractères qui me suffisent pour comprendre que ces opérations sont irréductibles. Et donc, à partir de là, je suis obligé de dire que cette part une au niveau substantiel va impliquer des puissances dunamis. Je ne dis pas faculté parce que le mot faculté est tellement périmé qu'il vaut mieux pas le dire, je crois, aujourd'hui. C'est la basse scolastique qui appelait faculté. Il vaut mieux dire, reprendre le mot grec, pourquoi pas, puisqu'au fond on le reprend aujourd'hui. Dunamis, des puissances, des capacités qui sont à l'intérieur même de l'âme, puisque c'est à l'intérieur de l'unité qu'il faut les comprendre, à l'intérieur même de l'âme, mais étant là comme des pierres d'attente pour ces diverses opérations. Donc ces dunamis que je pose, je les pose, je n'ai pas l'expérience directe, je les pose pour expliquer la complexité de cette vie. Et je les pose comme faisant partie de l'âme, comme provenant de l'âme, donc enracinés dans l'âme, émanant de l'âme, et faisant le lien entre l'âme et la très grande complexité des opérations vitales. Mais comment je les pose, Je les pose à cause de cela, et je les pose consciemment, Alors, est-ce que c'est une induction de poser ça? Oui, c'est la question. Est-ce qu'au fond, c'est une induction? Est-ce que, de nouveau, il y a une seconde induction? Je dis non. C'est la première induction qui est tout le temps présente et qui me permet de poser des unités.
Oui. Pourtant, c'est parce que je saisis des unités intermédiaires que je les pose.
Je saisis des autonomies intermédiaires, vous voyez? Je ne dis pas des unités. Je saisis des organisations vitales différentes, diverses. Alors, elles impliquent une certaine unité, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas ça qui est principal. Oui, c'est très différent comme position. C'est à l'intérieur même de cette unité que je vois cette complexité. Cette complexité, je vois qu'elle se ramène à une diversité. Diversité d'autonomie, diversité de dépassement dans les diverses opérations. Cette diversité d'autonomie et de dépassement me permet de poser quelque chose d'intermédiaire entre l'âme spirituelle, l'âme informant le corps dans une unité substantielle et ses diverses opérations. Et je dis qu'à ce moment-là, je pose cette puissance ou ces diverses puissances d'Ubalus qui vont être des intermédiaires entre l'âme dans sa force première et primitive, là, principe d'opération, et les diverses opérations. Oui. Donc, ce n'est pas une induction au sens fort. C'est à l'intérieur de l'induction, de voir que l'induction explique quoi. Donc, c'est une précision et une division à l'induction. Alors, pour bien comprendre ça, parce que ça, c'est important comme moment de la pensée, comment je pose ces diverses dunamis, ces diverses dynamènes, comment je les pose? Comment je pose? On verra combien il faut en poser. Ensuite, parce que ça aussi c'est un autre problème, mais pour bien voir combien il faut en poser, il faut savoir comment je les pose. Encore l'analogie avec la physique, ça vous aidera, du moins ceux qui comprennent, ce qu'on a fait comme mouvement physique. Vous savez bien que quand on a découvert la fusiforme, ou plus exactement, quand on a découvert la fusiforme, on l'a divisée en fusiforme et fusismatière. Et c'est une division. À l'intérieur de l'induction, on a divisé la fusis, la nature efficiente, en nature forme et nature matière. C'est une division. Et à l'intérieur de la fusis forme, on a découvert qu'elle était finale. Alors là, ce n'est pas une division, c'est une complémentarité. Mais c'est toujours à l'intérieur de la même induction. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est à l'intérieur de la même induction. Ce n'est pas une autre induction. Il y a une seule induction, l'induction de la fusis. Mais à l'intérieur de cette induction de la fusis, je divise. Je peux le faire, ça n'est pas aussi du tout. Eh bien, ici, c'est la même chose. Il y a une induction de l'âme. Et à l'intérieur de cette induction de l'âme, donc en laissant toujours l'interrogation, la complexité des opérations et leur unité, à l'intérieur même de cette induction, je vois qu'il faut diviser. Il faut diviser pour bien préciser les diverses opérations vitales, pour préciser des termes intermédiaires, des puissances intermédiaires, qui soient entre cette complexité de ces opérations et l'unité vitale. Oui. Sauf que je ne dirais pas que c'est une nouvelle induction, je dirais tout simplement que c'est une division à l'intérieur de cette induction. Je divise des loulamis. Je divise parallèlement aux différents niveaux de vie, parallèlement au niveau, à la diversité de ces diverses opérations vitales, je précisais que l'âme principe est principe de vie végétative, de vie sensible, de vie spirituelle. 3 degrés. C'est l'âme spirit, l'âme principe de vie qui va impliquer cette dounamis particulière. Il y a une dounamis particulière pour l'âme de vie végétative, pour l'âme de vie sensible, pour l'âme de vie intellectuelle. Alors, essayons de préciser. Quand faut-il diversifier ces dounamis? Bon, à l'intérieur de cette division, je dois préciser, je dois bien considérer ici que chaque fois qu'il y a dans une opération un caractère spécifique, il faut poser un principe spécifiquement différent d'une autre opération dont le caractère est tout à fait différent. Oui, donc, je vais préciser ici les différents principes qu'il faut poser pour ces diverses opérations. Mais je les poserai à l'intérieur de ces différents degrés de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais d'abord les degrés de vie, puis à l'intérieur des degrés de vie, j'essaie de préciser les différents principes propres de ces diverses opérations. Alors, nous aurons donc ce petit schéma, si vous voulez. Alors, le petit schéma est facile à comprendre. Ce qui est difficile, c'est de bien comprendre la raison pour laquelle je le pose. Alors, on va essayer de comprendre ça. Donc, j'ai posé l'âme. J'ai posé l'âme, prince arché. N'oublions jamais. Arché, bon, substance, acte d'un corps organique, vivant. Une fois que j'ai posé ce principe, il est indivisible. Puisqu'il est indivisible, il n'explique pas la très grande complexité des opérations vitales. Oui. Ce qui est indivisible, il ne faut pas expliquer ça. Il faut donc essayer de comprendre le pourquoi de cette complexité que je constate. Je constate trois opérations vitales différentes, un caractère tout à fait différent. L'âme, l'égocentrisme de la vie biologique. L'autre, le début de l'ouverture vers l'autre, au niveau intentionnalité. Et puis, troisièmement, l'ouverture donc vers l'autre. Troisièmement, l'autre au sens fort. Constate ça, ce que nous disions tout à l'heure. Alors, ces opérations vitales s'enracinent, cette diversité des opérations, s'enracinent dans l'âme comme des degrés de vie. Ce ne sont pas trois âmes, c'est la même âme qui a ses différents degrés de vie. Mais ces degrés de vie impliquent le point de vue de la dynamique, principe propre. Alors, il faut regarder que chaque opération vitale, en raison de son caractère spécifique, réclame une dynamique. Ça, c'est l'analyse. Je regarde cette opération vitale. Prenez le sommeil, prenez l'assimilation, la nutrition, peu importe. Cette opération vitale, je l'analyse, elle a un caractère spécifique. Elle a une détermination particulière. Qu'est-ce que c'est que la nutrition? Qu'est-ce que c'est que la respiration? Qu'est-ce que c'est que dormir? Ça a un caractère particulier, c'est pas le même. C'est pas le même du reste. Il y a des similitudes, mais c'est pas le même. Il faut donc, nécessairement, que cette opération vitale, puisqu'elle implique s'émodérer, elle implique le fait de se mouvoir soi-même, et puisqu'elle implique s'émodérer, il faut donc que nous trouvions au niveau de notre analyse, par rapport au niveau de l'analyse qui nous fait découvrir l'âme substantielle, il faut qu'on découvre le point de vue de cette âme, source de ces degrés de vie. Elle est source de ces degrés de vie par les dynamismes. Mais vous voyez bien que cette dynamisme au niveau de l'opération végétative n'est pas la dynamisme au niveau proprement sensible. Et elle n'est pas non plus, cette dynamique, au niveau proprement intellectuel et spirituel. Il y a donc des dynamiques différentes qui s'inscrivent dans ces différents degrés de vie que je constatais. Pas si vous voyez suffisamment. Je constate ces degrés de vie, et à l'intérieur de ces degrés de vie, je précise les dynamismes. Je précise des facultés, des puissances de ces diverses opérations. Les degrés de vie ne sont pas une faculté. Les degrés de vie, c'est simplement constatation dans les opérations vitales d'autonomie plus ou moins grande, d'organisation plus ou moins grande. Et à l'intérieur de ces différents degrés de vie, je constate qu'il faut poser, en fonction du caractère spécifique de ces opérations, des dynamiques différentes. Oui. Alors vous réfléchirez là-dessus, et si vous avez des questions là-dessus, parce que c'est un problème très important, un problème difficile. Difficile parce qu'il faut maintenir l'unité substantielle de l'âme. Il faut regarder la complexité des opérations, il faut essayer d'ordonner dans cette complexité ces différents degrés, et il faut à l'intérieur de ces degrés préciser les dynamiques.